Ce matin, on parlait dans la prière d'être marqué. Nous sommes marqués d'une manière ou d'une autre spirituellement. Le marquage est quelque chose de fort dans les choses humaines, même dans la nature, puisqu'on marquait au fer rouge les bœufs, enfin les troupeaux, tout simplement, lorsqu'on élève des animaux. Et en ce qui concerne la marque visible du peuple hébreu, elle était manifestée par la circoncision, signe d'alliance que Dieu a choisi pour son peuple. C'est un marquage visible, mais Dieu est plus attaché à ce qui se passe dans la réalité des choses et non pas dans les rites extérieurs. Et c'est pour ça que très vite dans les prophètes apparaîtra la notion de circoncision du cœur. Ce qui est un véritable marquage, cette fois-ci, non pas uniquement sur la peau, mais sur notre esprit, sur notre âme, sur notre conscience, donc sur la personnalité humaine. Et nous réclamons de ceux aussi qui doivent être circoncis de cœur, marqués spirituellement. Le diable aussi marque ses proies. Vous remarquerez qu'il y a des gens parfois qui ont vécu des choses dramatiques. Eh bien, ils vivent des fois une deuxième chose dramatique, où leur famille attire des choses dramatiques, parce qu'ils sont comme marqués par l'ennemi. Vous savez, les chasseurs, ils font des marquages aussi parfois de leurs cibles. Les snipers aussi font ça. Les militaires font un marquage au sol des cibles. Eh bien, le diable aussi cible ses proies. Et parfois, il y a des gens qui vivent les mêmes choses, les mêmes drames plusieurs fois. Et le Seigneur lui-même marque de son sceau ceux qui lui appartiennent. Vous êtes, vous qui appartenez à Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit. Et en tant que tel, vous êtes marqué par le sang de l'agneau et scellé par le sceau de l'Esprit de Dieu. Vous êtes scellé et c'est un gage de votre rédemption, c'est-à-dire de votre rachat final, votre appartenance finale au Seigneur. Nous sommes la propriété du Seigneur et nous sommes donc marqués par lui. Et lorsque, par exemple, 7 fils de Séva se sont mis à vouloir jouer les exorcistes ambulants et chasser le démon qui était chez quelqu'un, ils diront « Nous t'en conjurons au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, sors !» Et les démons lui ont répondu à ces gens « Nous ne vous connaissons pas !» En fait, les ennemis de Dieu, le monde spirituel invisible, connaît la marque véritable de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et ils nous reconnaissent de très loin, croyez-le. C'est pour ça qu'il nous faut être vrais, sincères, authentiques, d'authentiques disciples de Jésus, parce que le monde spirituel ne s'y trompe pas. Quand il voit un vrai chrétien, un vrai disciple, croyez-moi, ils ont bien peur. Un jour, quelqu'un me disait « Oh ouais, mais... » la personne, en gros, si je résume, semblait me dire que le diable était tellement puissant qu'il fallait faire attention, les démons étaient puissants, etc. Et moi j'ai dit, quand un homme est incandescent de la présence du Saint-Esprit en lui, quand il vit cette intensité de la vie de Dieu en lui, rempli du Saint-Esprit, eh bien le diable, s'il venait, il viendrait, mais il se brûlerait comme quelqu'un qui se brûlerait sur des charbons ardents. Alors, ne donnons pas un pouvoir illimité à l'ennemi de nos âmes. Croyez bien que les vrais disciples de Jésus sont reconnus dans le monde spirituel en tant que tels. Et quand vous avancez au nom du Seigneur Jésus, les ennemis de Dieu reculent. En revanche, si vous n'êtes pas quelqu'un d'authentique, eh bien effectivement, vous pouvez avancer et le diable ne reculera pas, mais il vous fera reculer. Et c'est pour ça qu'il nous faut être sérieux jusqu'au bout, persévérant jusqu'au bout, et en même temps être ces hommes et ces femmes qui sont marqués. Parce que si nous sommes marqués, nous allons vivre des choses différentes de celles des autres. Et ce matin, mon propos, c'est de parler des tests de la foi, les tests que Dieu met sur notre route. Il ne les met pas sur n'importe qui, il les met sur ceux qui lui appartiennent. Alors on va lire dans Jacques, à partir du chapitre 1 au verset 2, Jacques chapitre 1 verset 2 et quelques versets qui suivent. Jacques, chapitre 1, verset 2. Voilà ce qu'il est dit. « Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. » Voilà le langage de ceux qui sont marqués par Christ. « Vous le savez, Si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Anti-choc, comme on disait avec la montre autrefois qui allait avec. Hein. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Là, il y a une dimension particulière de la vie de ceux qui sont des disciples de Jésus ici. Il y a une marque particulière sur ces versets. Il y a quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus saisissant que ce qu'il apparaît quand nous lisons ça un peu trop vite. On va lire aussi dans une autre version, je crois que je l'ai mis juste après, voilà. C'est la version Parole Vivante qui transcrit tous les sens possibles du mot grec qui est employé. Alors il est dit « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. » Anti-choc, toujours. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable, il ne vous manquera rien. Vous pouvez relire ça chez vous dans toutes les versions possibles. C'est un passage très riche de cet apôtre qui était Jacques, un apôtre très pratique, un apôtre qui aimait rendre la vie chrétienne très concrète. Et je crois que c'est le remède à ce que nous ne soyons pas des brebis chétives, maigres, mais au contraire que nous soyons un peu grassouillés. Hein, pas trop non plus, parce qu'après on ne peut plus avancer, mais il nous faut être bien nourris, vivre dans la croissance, vivre la croissance. Parlons quelques instants de la nature des épreuves qui sont mentionnées, la nature des tests, parce que ce sont véritablement des tests que Dieu met sur notre route, qu'il suscite sur notre route. Et Jacques nous rappelle ici que Jésus ne nous a pas promis un chemin facile avec des pétales de rose tout le long de la route. Mais il nous a au contraire parlé d'un chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Et nous ne devons pas faire n'importe quel choix. Aujourd'hui, les gens croient que la liberté, c'est de choisir entre la vie et la mort. Non, non, la liberté, la vraie liberté, c'est que vous n'avez pas le choix. Le choix, c'est de se mettre du côté de Dieu. Ça, c'est la liberté. Mais le libre arbitre, quand on le décrit un peu comme si on avait le choix, non, on n'a pas le choix. Si on choisit le mauvais côté, on meurt spirituellement. C'est la mort spirituelle. Mais il nous est dit, choisis la vie afin que tu vives. En fait, se mettre du côté de Dieu, c'est se mettre du côté du camp de la liberté. Donc, il y a un chemin étroit et resserré qui mène à la vie, en contraste avec ce chemin large qui mène vers la perdition. Et Jacques nous expose dans ce texte qu'il y a diverses tentations, diverses épreuves, divers tests dans le monde. Et il emploie un mot grec qui est le mot « peirasmos ». Ça ne vous dira rien. Mais ce mot désigne une épreuve qui n'est pas une épreuve sans sens, mais une épreuve qui a un but, qui a un sens, une épreuve qui rend plus fort, une épreuve qui rend plus fort et qui purifie celui qui en est l'objet. D'où le fait que des fois Dieu amène son peuple dans le désert pour lui parler, pour l'éprouver, mais dans le but de le fortifier. Dieu ne nous tente pas dans le sens de nous tenter pour que nous soyons tentés par le péché. Ça n'existe pas, Dieu ne nous tente pas. Mais Dieu nous éprouve par contre. Dieu suscite des épreuves, des difficultés pour voir comment nous allons réagir et pour nous conduire. Et en même temps, il corrige un peu la trajectoire de notre vie. Et ou de nos décisions, parfois nous avons été irresponsables et il va nous rendre responsables. C'est à cela qu'il s'emploie, un peu comme si Dieu était plutôt ce contrôleur des rails, voilà, et puis qui remet bien sur les rails pour que le train n'aille pas dans la mauvaise direction, sur les mauvaises rails. Il fait ça, le Seigneur. C'est un aiguilleur, non pas du ciel, mais qu'il pourrait l'être, mais un aiguilleur des chemins ferroviaires que nous empruntons, en quelque sorte. Il ne s'agit pas uniquement de la séduction du péché qui pourrait survenir contre nous, mais surtout de quelque chose qui nous fortifie, qui nous purifie, qui nous affine comme on affine l'or qu'on veut purifier pour retirer ce qu'on appelle les scories, la potasse, c'est-à-dire toutes ces impuretés dont l'or doit être débarrassé pour être de l'or pur. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut affiner son œuvre. Il a dit dans Philippiens chapitre 1 verset 6 que l'œuvre qu'il avait commencée en chacun de nous, il voulait l'achever. Et il a commencé en chacun d'entre nous une œuvre. Et nous devons nous prêter à son action, croire dans la vérité de sa parole, croire que ce que Dieu nous dit, c'est pour nous et qu'il veut nous libérer à travers cette parole. Et il veut nous diriger par sa parole au fur et à mesure des étapes de notre vie pour que nous soyons affinés, pour que nous soyons épurés et pour que nous soyons cette heure pure, libérés de toute impureté, de toute scorie, de toute potasse, de tout ce qui finalement est encombrant. En quelque sorte, mettez les encombrants de votre vie dehors grâce à l'action purificatrice de l'épreuve de la foi. Il s'agit donc en fait des tests de la foi, mais il y en a plusieurs. Tests de notre fidélité, tests de notre intégrité, tests qui se déroulent au fur et à mesure des étapes qui jalonnent notre parcours, notre vie chrétienne. Dans le livre des Juges, pardon, chapitre 2, versets 20 à 22, concernant les ennemis qui étaient alentour d'Israël, le fait que Israël n'a pas obéi au Seigneur, on rencontre encore des géants, même après la conquête de Canaan, d'ailleurs, dans la terre promise. Eh bien, il est dit, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. » C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et on peut dire que ça continue toujours parce que les nations qui sont autour d'Israël sont toujours autant d'épreuves qu'Israël doit subir. Et en qui mettent-ils leur confiance actuellement? Parfois Dieu nous amène donc au désert pour nous éprouver et pour nous parler. Alors il y a l'épreuve de la douleur, de la peine, des désillusions qui peuvent couler notre foi, peuvent faire couler notre foi. Mais le but n'est pourtant pas de nous faire couler, le but est de nous débarrasser de tout sentimentalisme, du romantisme naïf qui accompagne parfois la foi, et d'enlever notre naïveté. Vous savez, pendant longtemps j'ai cru que parce qu'il y avait des hommes de Dieu, ils étaient tous intègres. Ben, c'est faux, et il m'a fallu être purifié de cette croyance-là. Parce que c'est faux. Et des fois, vous avez affaire à des gens qui ne sont pas intègres, fussent-ils ministres de l'Évangile. Alors, il faut être débarrassé de cette croyance-là pour pouvoir avoir du discernement. Tous les chrétiens ne sont pas forcément des anges avec des ailes dans le dos. Il y en a qui sont sur le chemin de la sanctification et ils ont encore besoin de transformation. Puis d'autres qui sont moitié-moitié, c'est-à-dire hypocrite, pas du tout sincère, tordu. Soit on les redresse, ou soit ils doivent fuir d'entre nous. Il y a un moment donné où il y a une rupture, parfois. Mais nous ne pouvons pas être naïfs, nous ne pouvons pas être romantiques. Vous voulez que je vous donne un exemple de ne pas être romantique? Il y avait un roi, il était romantique, je crois que c'était Saül, il me semble, qui n'a pas voulu couper la tête de Agag, le roi des... je ne sais plus quoi, d'ailleurs... je ne sais plus que c'était son peuple, Agag, ça ne me revient pas. Enfin, il y avait ce roi païen, et il voulait pas tuer, il était trop sentimental, il n'a pas voulu couper la tête, alors que Dieu a dit, tu l'exécutes, tu dois exécuter tout ce peuple malfaisant. Et puis, il y en est arrivé un qui du tout n'était pas dans ce romantisme, un prophète. Et le prophète est arrivé, et il a coupé la tête. Il s'est pas posé de questions. Lui, il a obéi à Dieu, voyez. Alors, soit on est romantique, soit on coupe la tête du péché, soit on coupe la tête de tout ce qui peut causer la mort, de tout ce qui peut apporter la malédiction dans une vie. Parce qu'au-delà de cet homme ennemi de Dieu, de cet homme impur, païen, et qui voulait du mal à Israël, il y a ses ennemis spirituels, qui peuvent être le péché, la chair, qui peuvent être l'idolâtrie, qui peuvent être toutes sortes de choses, et même aussi des ennemis spirituels avec une entité bien particulière que nous connaissons. Eh bien, nous sommes appelés à couper la tête de tout cela, et à pas laisser pousser les passions, les vices, et toutes sortes de croyances en nous, si nous voulons être libres. Nous devons être libres de tout sentimentalisme ou romantisme, et que notre naïveté soit enlevée. D'où parfois des mises à l'épreuve, ou des choses où parfois, ben, y a des gens ils disent « Oh, ben, j'irai plus à l'église, puisque c'est comme ça !» Mais réveille-toi, mon ami, le monde est bâti de deux façons. Il y a les bons et les mauvais. C'est comme ça. Les méchants et les gentils. Les voleurs et les gens honnêtes, etc. etc. Hein. On peut mettre toutes sortes de qualificatifs et il nous faut être purifiés de toute croyance qui va à l'encontre de cela, sans quoi ben, on mène une vie fausse, une vie parallèle. On croit n'importe quoi. On est romantique, on est naïf, on est rêveur. C'est pas ce à quoi nous sommes appelés à avoir du discernement, à être juge des choses. L'homme spirituel juge de tout, et n'est lui-même pas jugé. Il juge de tout, c'est-à-dire qu'il soupèse, il jauge, il mesure toute chose. Il condamne pas les autres, il juge des choses, il estime. Il n'accepte pas tout, tout cuit. Dans beaucoup d'églises, pour avoir accepté tout cuit ce qui se passait, ou tout ce qu'on nous disait, eh bien, il y a eu du désastre et de la ruine, et des vies chrétiennes qui sont devenues sombres, et qui même pour certaines n'existent plus, parce qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas écouté ce que Dieu dit dans sa parole, on n'a pas appris ce qui est écrit dans la parole. Et du coup, eh bien, on a été pris par les séductions, on a été pris par toutes sortes de travers, on a laissé des gens parfois prendre le pouvoir dans les églises par sentimentalisme, par romantisme. Et puis après, c'est la ruine. Parce que le diable, il a aussi ses agents infiltrés parfois dans les églises. Et parfois, ils ont une bonne tête, vous savez. Comme on dit, hein. Il y a une expression qui dit « L'habit ne fait pas le moine ». Il y en a une autre aussi qui dit que elle m'échappe à l'instant, mais on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Voilà, on dit ça. Mais c'est vrai, c'est une bonne expression. Et il y en a, ils sont comme ça. Et il y a aussi les séductions qui pourraient nous détourner du bon chemin dans toutes ces épreuves. Il y a les dangers, il y a les sacrifices qu'on doit faire, l'impopularité qui peut être la nôtre. Vous pouvez devenir impopulaire quand vous êtes vraiment dans ceux qui font la volonté de Dieu. Des fois, toute une église peut se tourner contre celui qui fait la volonté de Dieu, mes amis. Parce que ce n'est pas ceux qui sont en plus grande majorité qui ont forcément raison. Hein. Parce que nous, chrétiens, nous sommes moins que les autres, mais nous savons que nous avons raison. Pas parce qu'on est mieux que les autres, mais parce que la Bible dit des choses que nous croyons être la vérité, et elles sont la vérité. Et c'est pour cela qu'on est moins nombreux, mais on croit ce qu'on croit, et on sait qu'on a raison de le croire. Mais en tout cas, toutes ces épreuves, dans leur nature, ont pour but de nous rendre vainqueurs avec Jésus qui a dit qu'il nous fallait prendre courage, que nous aurions des tribulations dans ce monde, mais que lui avait vaincu pour nous et que nous pouvions ainsi aller victorieux sur ce chemin. Le but de Dieu n'est pas de nous affaiblir à travers la mise à l'épreuve, mais de nous fortifier, de nous épurer. La vie du disciple de Jésus est comme celle d'un athlète finalement. Plus longtemps dure l'entraînement, et plus on est solide, plus on est préparé, plus on a de formation, d'approfondissement, plus on a de courage, parce qu'on est ainsi plus disposé à réaliser l'effort qui nous est demandé. C'est ça l'athlète. Et c'est ça qui va nous conduire à la victoire. Jean-Michel est en train de se dire, je suis un athlète accompli. Des fois, je me demande ce que vous pensez, c'est pour ça que je mets des bulles. Vous voyez, comme dans les dessins animés, on met une bulle pour remplir ce que pense la personne. Ouais, c'était une bêtise, hein, Jean-Michel. Deuxième point, quel est le résultat, quelles sont les conséquences de l'épreuve de la foi aux yeux de Dieu? L'épreuve, les tests de la foi que Dieu suscite, qu'il permet ou qu'il suscite, effectivement, ont pour conséquence chez nous la constance. On est constant. On est ferme, on est endurant. On ne vient pas au culte tous les quatre jeudis parce qu'il y en a un qui nous a marché sur l'orteil, ou parce que bon, on a une petite fièvre spirituelle, ou une petite inconstance. Non, non, on est comme ça, réglo, réglé comme du papier à musique. On est endurant, on est costaud, on est fort spirituellement. On a besoin du Seigneur, on le sait, et on a cette constance, cette fermeté, cette persévérance qui vient de l'épreuve de notre foi. Ce qui hallucinait les païens quand les premiers chrétiens ont été persécutés au premier siècle, vous savez ce que c'est ? C'est qu'ils pensaient que les chrétiens allaient mourir d'une façon sordide, d'une façon lugubre. Mais la vérité est que, effectivement, c'était terrible ce qui était fait pour les faire mourir. Certains ont été transformés par l'empereur Néron en torches vivantes, mais certains sont passés sur les bûchers. D'autres ont été crucifiés. Mais il n'y a aucun chrétien, aucun martyr de l'Église qui est mort de façon lugubre. Au contraire, ces chrétiens chantaient malgré la souffrance. Et on raconte qu'un chrétien qui était dans les flammes, parce que ça commençait par l'asphyxie déjà, par la fumée qui sortait des flammes, hein, avant d'être brûlé, vous étiez déjà accommodé par la fumée, eh bien, il souriait et on lui demandait « Mais pourquoi tu souris, toi ?» Et il a répondu « Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu et je me sens heureux. » Vous imaginez ça ? C'est comme s'il était à sa fenêtre et puis qu'il souriait au soleil en disant « Je suis content, il y a du soleil. » Et ça, c'est véridique. Et c'est pour ça qu'on dit que les martyrs ont été la semence de l'Église. Plus il y avait de chrétiens persécutés, plus il y avait de chrétiens qui naissaient de nouveau. Parce que les païens se convertissaient en voyant la foi des chrétiens, voyant que ces hommes étaient capables de mourir pour leur foi et la manière dont ils mouraient et qu'ils voyaient la gloire du ciel, ils se sont dit « à notre tour, allons-y, parce que sinon on va rater la gloire du ciel ». Et c'est ce qui a fait que l'Empire romain a été secoué par la puissance de Dieu, malgré le martyre de ses frères et sœurs. On ne va pas dire de ces malheureux, parce que ce n'est pas ce qu'on nous dit, hein. Il a répondu « Je vois la gloire de Dieu et je me sens heureux ». Donc ce n'est pas le martyre de malheureux gens, c'est le martyre de nos frères et sœurs dans la foi qui nous ont précédés, des saints que Dieu a suscités dans ce monde qui n'était pas digne de les porter. Le mot « épreuve » de la foi, c'est « persévérance ». C'est le mot « hypomoné » qui traduit la patience, la persévérance, l'endurance, la fermeté, qui décrit ici la qualité de quelqu'un qui est rendu capable non seulement de subir l'adversité, mais aussi de la conquérir, cette adversité, et de la vaincre. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde, disait Jésus. Et le résultat, c'est la force que Dieu va nous communiquer au travers de cette épreuve de la foi et qui va nous permettre de supporter encore plus pour conquérir lors de batailles plus intenses, plus dures encore. C'est ça le sens du mot hypomoné. Et cette constance, cette force, d'après les versets que nous avons lus, nous apporte trois vertus, trois qualités, trois caractéristiques. Premièrement, elle nous rend parfaits, c'est écrit. Téléios en grec. C'est la perfection, mais dans un but déterminé. Et l'animal, par exemple, qui était offert en sacrifice, on dit qu'il était téléios. Cette expression est donc reprise. L'animal était parfait, il était téléios, c'est-à-dire qu'il était apte pour être offert à Dieu. Et nous sommes des victimes spirituelles aptes à s'offrir en sacrifice à Dieu. L'étudiant était téléios lorsqu'il était bien formé. Alors, formons-nous bien au niveau de l'étude biblique, parce que si nous voulons être téléios aussi, c'est-à-dire parfait dans ce but déterminé que Dieu poursuit, il nous faut être instruits de sa parole et en même temps être rendus aptes à être offerts à Dieu au niveau du comportement, au niveau du caractère, au niveau de notre foi. En fait, l'épreuve de la foi nous rend téléios, c'est-à-dire parfait, pour nous rendre capables de réaliser la tâche à laquelle nous sommes appelés, le service auquel nous sommes appelés depuis que nous sommes nés de nouveau. Et puis, la deuxième chose, la deuxième qualité, c'est qu'elle nous rend complet. En grec, okleios, ce qui signifie intègre, parfait dans toutes nos parties, pas seulement, pas de zone d'ombre en quelque sorte, pas de zone faible, mais parfait dans toutes nos parties. C'est comme l'animal sans défaut qui était offert en sacrifice. Il était okleios, sans tache, parfait, complet. Nous pouvons ainsi nous présenter comme victime spirituelle en sacrifice devant Dieu, car considéré par Dieu à travers cette épreuve de la foi comme étant sans défaut, sans tache. Cette fermeté qui nous rend complet, Elle permet à la personne de dépasser ses faiblesses, ses imperfections de caractère. Et la force que Dieu communique à ce moment-là rend capable de vaincre d'anciens péchés, de se débarrasser de vieilles hontes et à obtenir des nouvelles vertus jusqu'à être plus libre pour servir Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on est marqué par des choses passées, parfois on a tendance à dire « Ah ben ça c'est mon passé, ça c'est ci, ça c'est ça ». Puis on se considère comme avec cette identité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes plus obligé d'être Martin le voleur, Pierre l'impétueux, Jean le faussaire, ou Matthieu le collabo, ou je ne sais quoi. On n'a plus ces caractéristiques-là. En Christ, nous sommes libérés. Et on a une autre identité. Et nous pouvons nous débarrasser de toutes les identités dont nous nous sommes affublés nous-mêmes ou dont nous ont affublés les autres, parce que notre identité aujourd'hui, elle est en Christ. Ton identité, c'est pas le gars faible que tu étais, la femme faible que tu étais, ce n'est pas la victime de telle ou telle chose, mais tu es fille ou fils de roi, fille ou fils de Dieu, et c'est ça maintenant ton identité. C'est pas autre chose, tu n'es pas marqué par les caractéristiques dont qu'on t'a donné dans ce monde, mais tu es marqué par les caractéristiques que Dieu te donne. Et ça va de cette histoire de perfection, du fait d'être complet et être capable de vaincre toutes ces vieilles hontes, ces vieilles culpabilités pour pouvoir être plus libre, pour servir Dieu. Christ vous a affranchi pour la liberté, dira Paul aux Galates. Et enfin, l'épreuve de la foi, elle a pour résultat qu'il ne nous manque rien. L'épestai en grec, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a plus d'échec, plus d'abandon, on n'abandonne plus la course, on est des athlètes, hein Jean-Michel ? On est des athlètes, alors on court, on est sur le vélo électrique, mais on pédale quand même, et on court jusqu'à la victoire, jusqu'à la ligne d'arrivée. Pas d'échec, pas d'abandon, c'est ce que signifie ce mot, il ne vous manquera à rien. Le but, c'est donc de nous rendre victorieux. Je conclurai par cette phrase, cette citation de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, comme on l'a appelé, qui disait « La plupart des grandes vérités de Dieu doivent être apprises au moyen de l'épreuve. Elles doivent être marquées au feu en nous, par l'acier, au rouge des afflictions, sans quoi nous ne les recevrons pas vraiment. » Si vous voulez vraiment approfondir votre foi avec Christ, il faut communier aux souffrances de Christ. Alors, s'il ne s'agit pas de faire de la souffrance une sorte de via dolorosa où on se flagelle, hein, c'est pas ça, mais on participe au fur et à mesure de notre marche à cette souffrance qui a caractérisé le Seigneur sur cette terre. On souffre avec lui le combat de la foi, on souffre avec lui eh bien, le fait qu'il nous manque certaines choses et que nous devons en être dotés. Et nous devons apprendre certaines vérités par cet approfondissement, par cette profondeur. Voyez, quand nous vivons de tels moments, les moments de l'épreuve de la foi, il ne nous faut pas nous décourager. Mais au contraire, regardez la main de Dieu tracer ce chemin de foi nouveau qu'il nous désigne pour mieux nous rendre forts, purs, saints, persévérants, endurants. C'est la main de Dieu qu'il faut regarder tracer une nouvelle trajectoire, une nouvelle page, peut-être un nouveau scénario pour notre vie chrétienne. Dieu connaît ce monde, le chemin sur lequel nous sommes. Il connaît par avance les écueils, il connaît les obstacles, les déserts, les victoires, les défaites qui vont être les nôtres, et il tend à corriger les choses pendant notre marche. Pendant qu'on chemine, lui, il corrige. C'est le but de ces tests qui sont destinés à nous mieux connaître nous-mêmes et en même temps nos réactions. Pierre a connu ces tests de la foi. Lui qui était si impétueux, lui qui était sûr de lui, jusqu'à ce qu'un jour il a renié Jésus, test difficile à encaisser, et il a perdu toute confiance en ses propres ressources pour mieux dépendre du Seigneur Jésus par la suite, quand il fut rempli de l'Esprit, dépendant de l'Esprit de Dieu pour marcher avec Jésus. Alors nous devons, il me semble, réfléchir ce matin, considérer nos voies, les voies de Dieu aussi, et dire oui au Seigneur, oui Seigneur, prends ma main, disons-lui amen, je suis d'accord pour être fortifié au travers de ces épreuves qui ne manqueront pas, parce que ce n'est pas moi qui les choisis, elles viennent au fur et à mesure, hein. On n'a pas le choix, Dieu nous fait passer par certains chemins pour que nous puissions eh bien, être fortifiés, épurés et que nous soyons tellement forts qu'il y ait cette constance, cette persévérance, ce qui amène la perfection, qui amène la complétude, le fait qu'on soit complet en Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ce passage écrit par Jacques et qui est tellement riche, Seigneur, de signification, riche de sens pour notre vie chrétienne ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons regarder à toi. Nous ne voulons pas nous décourager à la première occasion. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre la boussole. Mais, Seigneur, nous voulons nous ancrer en toi, avoir les yeux fixés sur toi et être rassurés en sachant que tu nous conduis, que toute épreuve de la foi qui est là simplement pour nous fortifier. C'est un chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, mais tu tiens notre main et tu nous permets de nous fortifier. Tu nous permets, Seigneur, d'aller plus loin avec toi. Tu nous permets, Seigneur, d'être endurant, constant, ferme, persévérant. Tu nous muscles, Seigneur, au niveau de notre foi, de notre confiance en toi. Et dans la marche, tu nous rends beaucoup plus sûrs de nous, Seigneur. Non pas sûrs de nous en nous-mêmes, mais sûrs de nous par rapport à la victoire que tu nous accordes. Seigneur, nous te louons ce matin parce que tu nous parles et parce que pour chacun de nous, tu veux que nous approfondissions. Tu veux que nous allions beaucoup plus profond dans les choses. Tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, abusés par les choses extérieures. Mais tu veux, Seigneur, que nous regardions plus profondément à ce qui est intérieur à nous. Est-ce que tu veux faire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cœurs? Ce matin, nous pourrions nous regarder à ce qui frappe la... Nous pourrions, Seigneur, en rester à ce qui frappe l'apparence, qui frappe les regards. Seigneur, tout simplement à l'apparence, à l'extérieur. Mais c'est pas ce que tu nous demandes, Seigneur. Tu nous demandes, Seigneur, beaucoup plus. C'est de considérer vraiment nos motivations intérieures. Ce qui est vraiment dans notre cœur. Ce qui peut nous habiter. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment rejeter tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de ta parole. Tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, tout ce qui ne relève pas de ce que l'Esprit de Dieu donne et distribue à chacun. Oui, Seigneur, que toute ténèbre en nous disparaisse. Que, Seigneur, toute zone d'ombre en nous disparaisse. Nous voulons nous soumettre à ta sainte parole, Seigneur, pour être fortifiés, pour être rendus encore plus authentiques, plus justes, plus intègres, plus forts, plus saints, au nom de Jésus de Nazareth. Merci de faire ton œuvre dans chaque cœur ce matin. Seigneur, que nos cœurs ne se trompent pas eux-mêmes, ne s'abusent pas eux-mêmes, ne se séduisent pas eux-mêmes par de vains raisonnements, mais que nos cœurs soient purifiés, Seigneur, et qu'ils aient l'amour de la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.